Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la deuxième partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
En répondant oui au référendum, nous avons répondu oui à la communauté avec la France, mais également oui à la communauté africaine, et j'entends par là une unité africaine indéfectible dans l'unité avec la France.
En cette seconde moitié de l'année 1958, l'abbé Barthélemy Boganda n'ose pas prononcer le mot indépendance, s'il essaie de biaiser devant les journalistes qui l'acculent, qui le poussent à exprimer le fond de sa pensée, c'est bien parce qu'il sait que l'instant n'est pas propice, mais que dans le même temps, tous connaissent quel est son objectif à ce moment-là. L'accession à la souveraineté internationale qui doit mettre fin aux brimades, à la maltraitance, aux travaux forcés auxquels son peuple reste soumis en Afrique équatoriale française. Un mépris des colons auquel la métropole, préoccupée par la guerre en Indochine, n'accorde presque plus d'intérêt. L'assimilationniste particulièrement attaché à la France et à sa culture, mais farouchement déterminé à défendre les siens, député de Lubangui-Chari depuis 1946, a perdu ses illusions sur l'efficacité du travail parlementaire. Suite de notre série consacrée à Barthélemy Boganda, le premier prêtre de Lubangui-Chari qui va très rapidement devenir aussi le premier député indigène de son pays à l'Assemblée nationale française dès 1946. Parlement, Boganda décide de se donner d'autres moyens pour mettre en œuvre son idée politique, mais surtout sociale. C'est ainsi que va naître, en 1948, la société coopérative de Lubangui, l'Obaï Lessé, la Soukoulolé. Une société indigène coopérative qui entend résoudre les problèmes d'alimentation, de l'habillement, du logement, des soins médicaux et de l'enseignement. Mais les colons qui détiennent le monopole de l'exportation des produits et qui fixent leurs prix ne vont lui laisser aucune chance. Son obstination ne va contribuer qu'à l'isoler un peu plus. Les autorités vont même utiliser la méthode de l'intimidation pour le fragiliser. Maurice Saragba, maître de conférence à l'université de Bangui.
Là où Boganda arrivait, bon, les gens ne devraient pas le rencontrer. Alors, si vous avez cette... compte tenu aussi du socialisme africain, on le recevait. On lui donnait à manger, on lui donnait à boire, on le logeait. Alors, celui qui osait le faire, eh bien, pouvait être arrêté et jeté en prison pour 15 jours. Et c'est fréquent.
Jamais en cette année 1948, le racisme des colons de Lubangui ne s'était manifesté avec autant d'arrogance. Maurice Saragba, historien centrafricain.
Pendant qu'il était prêtre, il a subi aussi l'injustice des prêtres blancs qui étaient avec lui. Lui, en tant qu'abbé, quand il revenait de Grimari, son poste, où est-ce qu'il était? Il mangeait avec le cuisinier à la cuisine. Hein? Il mangeait avec les bouilles à la cuisine, mais il ne se mettait jamais à table avec les autres prêtres blancs. Mais vous, et cela l'a beaucoup marqué.
Le 31 juillet 1948, Barthélemy Boganda est expulsé en raison de sa couleur du restaurant Pindéré de Bangui. Il va connaître d'autres humiliations de ce type et même des tracasseries administratives comme la verbalisation pour transport non autorisé de passagers, perte de l'une des deux plaques d'immatriculation de son véhicule, défaut de permis de chasse, vente de viande de chasse fumée, etc., etc. Bien plus grave devait être les tracasseries foncières. Le chef de la région accuse Boganda de ne pas respecter les règles du régime foncier instauré en 1897 et de débrousser sans autorisation, d'ouvrir une route non prévue. Boganda, le député de Lubangui, va déposer à l'Assemblée nationale française un projet de loi qui n'arrivera jamais en discussion et qui va susciter les sarcasmes en raison de son caractère peu juridique. Il réclamait en fait l'abolition du régime en vigueur qui permettait aux chefs du territoire et au gouverneur général d'accorder inconsidérément et selon une procédure ignorant le droit des indigènes, de vastes concessions de terrain pour y installer des plantations de café ou d'EVA ou des exploitations forestières. Dans les exposés des motifs, avec son souci habituel du concret, il va prendre le soin de décrire les procédés par lesquels étaient écartés les droits coutumiers ancestraux des habitants. Je vous lis un extrait de son texte. En Oubangui-Jari, lorsqu'un colon nouvellement arrivé veut s'installer, il choisit son terrain, habité ou non, constituant ou non la propriété des familles, clans ou tribus. Il adresse alors une demande à l'administration et autour d'un apéritif, tout se règle. Quant au propriétaire, il est le dernier averti. On ne lui demande pas son avis. Lorsqu'il y a une habitation sur la propriété visée, on pousse parfois la condescendance jusqu'à lui donner une somme dérisoire. 2000 à 3000 francs CFA pour une superficie de 500 à 1000 hectares. Cette somme est appelée en Oubangui indemnité de déguerpissement. Bien souvent, elle est accompagnée de menaces et de coups, quand ce ne sont pas des militaires qui démolissent les habitations en quelques heures. Cette injustice criante qui est passée en habitude constitue en AEF de nombreuses causes de mécontentement de la population. Nous ne pouvons se laisser perpétuer un tel état des choses, persuadés qu'un jour ou l'autre, les peuples d'outre-mer en auront assez de ces mesures arbitraires avec lesquelles on les gouverne depuis près d'un siècle. Fin de citation. Cette revendication du sol des ancêtres va alarmer au plus haut point les colons forestiers de Haute-Sanga qui envisageaient d'étendre encore les superficies dont ils disposaient. Il va alors recevoir des menaces à peine voilées d'élimination physique. En août 1948, Ouganda donne sa démission de l'Union Oubanguienne créée par Georges Darlan, passée spectaculairement dans le camp des adversaires. Il critique également la collusion du RDA, le Rassemblement démocratique africain, avec les communistes. Abel Bumba, disciple de Ouganda.
Ouganda, lui, pour les alliances, il dit qu'il a foi en l'Afrique. Son parti, Messam, ne doit pas être affilié à un parti quelconque. Ni affilié à Moscou, Paris, Londres, etc. et tout. Non, l'Afrique a une civilisation dont elle doit être fière. Donc, pas d'alliance du tout. Et or, Oufouette Boigny voulait couvrir toute l'Afrique.
Arrimer le RDA voilà. À un parti européen.
À un parti européen. Alors là, ça n'allait pas du tout. Et puis nous étions fédéralistes, finalement, avec Senghor.
Devant son isolement, il prend alors conscience de l'urgence qu'il y a à donner une structure à son action politique, c'est-à-dire créer une organisation. C'est ce qui va l'amener le 28 septembre 1949 à prendre la décision de créer le MESAN, le Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire. Ce n'est pas un simple parti pour Oubangui-Jari. Le premier règlement intérieur du mouvement définit son ambition, le complet développement de la race noire et sa libération par une évolution progressive et pacifique, à réaliser par les efforts conjugués de tous les noirs du monde entier. Les statuts ne feront l'objet d'un dépôt qu'en avril 1950. L'objet du mouvement est détaillé, on n'y retrouve aucune revendication. Sur le plan politique, le mouvement entend défendre la liberté du peuple africain, l'égalité entre tous les hommes, le respect de la personne humaine dans chaque Africain. Sur le plan économique, il demande la mise en valeur du sous-sol et du sol africain en vue de l'amélioration de la condition d'existence du peuple noir. Sur le plan social, il réclame la création de nombreux centres d'action sociale intégrés dans des coopératives de production et de consommation à vocation étendue. Son programme se définit en 5 infinitifs. Nourrir, soigner, instruire, loger, vêtir. Il va donc se lancer dans l'installation, dans l'implantation de son parti à l'intérieur du pays. En 1950, l'abbé Bouganda crée la surprise en se mariant avec une secrétaire parlementaire rencontrée à Paris, Michel Jourdain. Maurice Saragba, maître de conférence en histoire à l'université de Bangui.
Mais Michel Jourdain, c'était son épouse légitime, finalement. Ils se sont mariés en juin 1950, c'est-à-dire peu de temps seulement avant la naissance de leur première fille, Agnès. Vous voyez ? Donc, ils se sont mariés, ils ont vécu ensemble de 1950 en 1957-8. Ils étaient toujours ensemble. Et Michel Jourdain l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup appuyé moralement, matériellement, dans la politique qu'il menait.
Ce mariage est l'occasion pour ses ennemis de se réjouir. Ils le traitent d'antéchrist. Quant à l'Église, elle ne peut tolérer pareil affront. Le Vatican va donc l'excommunier. Maurice Saragba.
Au départ, il n'a pas quitté l'Église. Il a toujours continué, non pas à s'occuper d'une paroisse, il était député à l'Assemblée française, mais quand il allait à l'Assemblée, il était toujours en soutane. C'est après son mariage avec Michel Jourdain, qui était sa secrétaire, celle que le président Georges Bidault, qui était président du MRP, Mouvement Républicain Populaire, avait mis à sa disposition, parce qu'à l'époque, chaque député devait avoir une secrétaire. Et vous savez très bien, l'un est tombé amoureux de l'autre, et puis ensuite, en 1950, puisque Michel Jourdain était grosse, eh bien...
était enceinte.
Oui, elle était enceinte, voilà. Elle était enceinte, et ça n'a pas plu donc à l'Église qu'il a excommunié.
Le prêtre est défroqué, comme l'appellent désormais ses adversaires, poursuit son chemin comme si de rien n'était. Mais il va faire l'objet de nombreuses attaques de l'administration qui a programmé sa chute. Au cours de l'année 1950, l'adjoint au chef de région et le chef de brigade de gendarmerie font irruption à son domicile avec une escorte de gardes armés. Il va même être arrêté sur la place du marché et enfermé avec sa femme et son bébé de 6 mois pendant 48 heures. Des maladresses des autorités coloniales qui vont renforcer sa popularité auprès des siens. Il peut même se permettre, en 1953, d'ignorer le général de Gaulle en visite en Ubangui-Chari. Mais l'Église aussi va se liguer contre lui. Peu avant le scrutin, elle fait circuler un tract qui dit que quiconque voterait pour le prêtre suspendu commettrait un péché mortel. Menace qui ne prend pas. En 1954, la tension est de plus en plus grande dans le territoire de l'Ubangui-Chari. La hantise de l'aggravation de la situation politique ne fait que renforcer le racisme des milieux européens, surtout parmi ceux que Boganda appelle les petits blancs, c'est-à-dire les agents de maîtrise du secteur public ou du secteur privé qui sentent leur emploi directement menacé par une éventuelle africanisation des cadres. L'incident va éclater à Berberati. On découvre au domicile d'un conducteur de travaux publics récemment muté de Bangui en Haute-Sangha pour avoir commis diverses brutalités à l'encontre des Africains, les cadavres de son cuisinier et de l'épouse de celui-ci, tous deux tués par balles. Le lendemain, alerté par la famille, une foule en colère assiège le domicile de l'Européen accusé de meurtre. En peu de temps, les émeutiers se rendent maîtres de la ville. Le chef de la région, le chef des districts, le juge et deux autres Européens sont blessés par des jets de pierre. Un Européen de passage est mortellement blessé lui aussi. Bref, en quelques heures, la population retrouve les réflexes de la guerre du Congo-Ouara. Il n'en fallait pas plus pour que les autorités déploient toute l'artillerie disponible et mobilisent l'ensemble de l'effectif des soldats et parachutistes de la région. Avant de lâcher ses troupes sur les populations, le gouverneur Zamarco décide d'abord de se rendre chez Barthélemy Boganda pour lui demander de bien vouloir l'accompagner à Berberati. C'est donc ensemble qu'ils vont se rendre sur le lieu des émeutes. Sur place, une foule considérable assiste aux obsèques du cuisinier et de sa femme, scandant le vieux cri de guerre du Congo Ouara. Le député de Lubangui, rappelant la fameuse insurrection à laquelle tous se réfèrent, va leur dire tout simplement ceci. « Votre père, Congo Ouara, vous a libéré par la lance et la flèche. Moi, je vous libérerai par la seule force de la loi française. » Il va, dans son discours, se porter garant du fait que la justice sera la même pour les Blancs et les Noirs, et que l'auteur du crime sera puni. Après une courte hésitation, la foule va se disperser dans le calme, alors que les troupes armées investissent la ville. Aucun coup de feu n'est tiré. Les colons vont prendre conscience à ce moment-là de la popularité, du respect, de la considération dont jouit le député Boganda auprès des populations. Mais les journées qui vont suivre ne vont pas donner raison à ces derniers, puisque la justice rapide et égalitaire qu'il a promis à la foule ne va pas être rendue. Le commissaire et le juge d'instruction vont conclure dans cette affaire un double suicide du mari et de la femme, sans pour autant en découvrir les motivations. Le colon auteur des crimes va être tout simplement innocenté. Pour le parquet, il était surtout important de poursuivre les meneurs des émeutes. La famille du cuisinier et les proches du Messan, le parti de Bouganda, vont être arrêtés et condamnés. 158 personnes vont être jetées en prison. Une injustice de plus. Mais une de trop qui va conforter un peu plus Bouganda auprès des populations qui le perçoivent désormais comme leur défenseur, comme un proche. Son discours passe mieux et sa campagne pour les élections qu'ils annoncent rencontre de plus en plus l'adhésion du peuple. Bouganda sera réélu sans difficulté. C'est un véritable plébiscite puisqu'il remporte le suffrage avec plus de 90% des voix. Il va également dans la foulée être élu maire de Bangui. Les élections du 31 mars 1957 à l'Assemblée territoriale sont un triomphe sans précédent pour le mouvement de Bouganda. Le Messan se voit attribuer tous les sièges de la nouvelle Assemblée. Mais Bouganda va refuser toutefois le poste de vice-président de l'Assemblée territoriale, prétextant qu'il ne pouvait se placer sous les ordres d'un gouverneur. Il va alors faire appel à un de ses anciens élèves, médecin diplômé de Dakar, qui à ce moment-là est en service dans le Moyen Congo. Son nom, Abel Ngumba. Il n'a que 30 ans à cet instant. Outre Abel Ngumba, pour lequel était prévue la vice-présidence et un ministère des Finances et du Plan, Barthélémy Bouganda sollicite le concours d'un jeune directeur d'école, David Dako, à qui il réserve le ministère de l'Agriculture. Un mois après la mise en place de ce gouvernement, où Roger Guerrillo occupe un super ministère réunissant affaires administratives et économiques, le député maire de Bangui, Barthélémy Bouganda, est élu président du Grand Conseil de l'AEF. L'orphelin aux plaies purulentes, au visage dévoré par la variole, devient ainsi la première personnalité de la fédération. Mais il est encore loin de l'objectif qu'il souhaite atteindre et le régime de la loi cadre de Gaston Defferre, qui permet une africanisation partielle des cadres, vient lui donner raison, puisqu'elle montre le fossé, la carence des ressources humaines qu'il dénonçait depuis longtemps déjà.
Cette organisation nouvelle, Madagascar aura à exercer par ses propres moyens son administration, son gouvernement intérieur. Et si Madagascar le veut, la Grande Île mettra, comme les autres territoires, à l'intérieur de la communauté, un même domaine pour la défense, pour la politique étrangère, pour la politique économique, pour la politique des matières premières, et aussi, dans certaines conditions, pour la justice, l'enseignement et les communications. En disant oui à ce qui est demandé, vous vous engagerez avec la France et les autres territoires pour un grand avenir, je le répète. Et je suis sûr de votre réponse.
Nous sommes en 1958. Le général de Gaulle vient d'entamer une tournée pour faire campagne en faveur du statut de communauté qu'il propose au territoire d'Afrique sous le giron de la France. C'est une campagne relativement aisée pour l'homme du 18 juin 1940 qui s'annonce, puisque la plupart des dirigeants, des responsables locaux, sont acquis à sa cause. Barthélémy Bouganda, qui a boudé le général de Gaulle lors de son passage à Bangui en 1953, n'est pas très très favorable à cette idée de communauté. Il rêve plutôt d'indépendance. Mais va-t-il faire campagne pour le non au référendum qui s'annonce? Son idée des États-Unis d'Afrique latine ne risque-t-elle pas de heurter le président de la République française et de l'isoler un peu plus? Nous en parlerons demain dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Delphine Michaud, Fouque et Alain Foucault, nous vous donnons donc rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour une autre édition d'Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Écoutez Archives d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.